Bonjour à tous. Alors nous sommes ravis, extrêmement ravis de recevoir aujourd'hui à la librairie Laurence Agalovitch, qui nous avait complètement bluffé il y a 6 ans avec Loin de quoi, le premier volet des aventures de Simon Sagalovitch, peut-être son alter ego, ça il va nous le dire, j'espère. Et le second tome des aventures de Simon arrive à la librairie depuis 10 jours. Il s'appelle La métaphysique du hors-jeu. Il paraît aussi chez Actes Sud. Et voilà, et nous sommes très très contents d'apprendre ce que Simon Sagalovitch va enfin devenir. voilà, alors je voulais commencer cet entretien en demandant à Laurent comment est née l'envie ou l'idée de cette saga, puisqu'on peut appeler ça une saga maintenant, vu qu'il y a 2 tomes. voilà.
Alors, c'est venu. En fait, j'ai écrit 2 premiers romans qui n'étaient pas du tout dans cette veine un peu comique. C'était 2 romans sérieux, notamment le second qui était quand même sur le suicide de Virginia Woolf, ouais. Sur ses dernières heures. Donc, on était loin des aventures de Simon. Et donc je m'étais jamais fait à l'idée qu'un jour je pourrais écrire une chose tragicomique, jusqu'au jour où le journal du dimanche, je pense que c'était pour le passage du millénaire, avait demandé à 8 écrivains de 8 nationalités différentes d'écrire une nouvelle, un feuilleton pendant l'été. Et donc, je crois que c'est Colm McCann qui avait commencé par lancer le sujet. Donc, le premier épisode s'est passé à New York. Et le challenge, c'était qu'à la fin, il fallait que l'héroïne parte à Vancouver, puisque j'habitais à l'époque à Vancouver. Et moi, donc, je devais la réceptionner et la renvoyer en Australie, je crois. Et je ne sais pas pourquoi... j'ai écrit une nouvelle où je me suis laissé aller et où il est apparu qu'il y avait une veine comique dedans. Donc j'ai fait mon travail et puis après je me suis dit bah, pourquoi pas continuer sur la lancée. Donc j'ai repris l'intitulé de la nouvelle, enfin le substrat de la nouvelle et puis j'ai commencé à développer le personnage et puis les choses allant assez bien, je me suis installé dans ce rythme et donc j'ai créé ce personnage et ce style.
Alors Simon, sacré Simon, on peut dire que c'est un inadapté chronique, un garçon qui a un peu de mal avec le réel, qui a un peu de mal aussi avec sa famille. Et puis qui a un peu de mal aussi à s'inscrire dans la société même, on peut dire, parce qu'il a aussi beaucoup de mal à travailler. Alors, d'après son psy, c'est aussi un tranquille intranquille. ce personnage est devenu un personnage comique, voilà.
Alors ça, j'en sais rien. Il s'est sûrement imposé de lui-même. Mais je pense... je pense qu'il est comique malgré lui, quand même. En fait, il est tragique, si on réfléchit un peu, parce que il est quand même fracassé par l'existence. Comme vous dites, il est complètement inadapté. Ses seules béquilles, c'est le whisky, le Temesta, pour pouvoir tenir, pour pouvoir s'accepter tel qu'il est. Et donc, je pense que plus les gens sont malheureux, plus on rigole, et plus les gens sont dans la muise, et plus on se tord de rire. À partir de là, c'est comme ça que le comique fonctionne. Donc, plus on est dans l'exagération, et plus le rire se déclenche naturellement. Donc, comment il est devenu comique, je ne sais pas, il est né comique, mais comique malgré lui. Parce que la vie de Simon en elle-même n'a rien de comique. Si on filmait au jour le jour son existence, ça donnerait plutôt envie de se pendre que de rire, quoi. Parce qu'il se passe rien, enfin, il fait rien de ses journées, il a envie de rien faire, il a aucune énergie, il a aucun ressort, aucun but. Enfin, il est comme nous tous. Donc, il se lève, son cœur bat, donc il respire. Mais il se débat comme ça dans une sorte de néant total, quoi. Donc, il est comique. C'est un comique contrarié, on va dire.
Oui, c'est Mark Twain qui disait que la source secrète de l'humour, ce n'était pas la joie, c'était le chagrin. Donc, voilà.
Plus il est désespéré, plus il est drôle. Mais s'il était heureux, je ne l'aurais pas écrit. Enfin, bon, c'est pas intéressant. Les gens heureux, ça intéresse personne. On le dit parce que les gens sont malheureux, donc ça nous fait du bien de voir qu'on n'est pas seul.
Bon, il se trouve que Simon a aussi un rapport très particulier avec son Dieu, en tout cas son Dieu et sa religion, en tout cas. Au début, on pense qu'il est absolument athée, etc. Puis finalement, dans le second, on s'aperçoit que petit à petit, il y revient, et puis surtout, il a des comptes à... il voudrait que son Dieu rende des comptes, en fait. C'est ça surtout. Mais il a un rapport quand même assez compliqué avec la religion.
Ah oui, mais alors ça, c'est pas que Simon. Non, mais alors ça, c'est typiquement... je connais mal la religion catholique, mais dans la religion juive, c'est quelque chose qui est quand même assez courant. Enfin, quand vous lisez la Bible... Enfin, les Hébreux sont insupportables, puisqu'ils n'arrêtent pas de se plaindre. Donc, mon Dieu a quand même la gentillesse de les faire sortir d'Égypte. Hein, donc, ils sortent d'Égypte. Hein. Et puis, deux semaines après, évidemment, il n'y a plus rien à bouffer. Il fait chaud. C'est le Cagnard, le Sinaï. Et puis, ils commencent à se plaindre auprès de Moïse en lui disant « Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes, là ? On était très bien en Égypte. On veut retourner en Égypte. » Et donc, ils sont tout le temps dans la revendication, ils sont tout le temps dans le courroux et tout le temps à se plaindre, à se lamenter et à venir frapper à la porte de Moïse en disant « mais ça va pas du tout, nous on était très bien où on était, qu'est-ce que c'est que ce voyage organisé que tu nous proposes dans un désert rocailleux où il n'y a rien à manger, où il fait beaucoup trop chaud, où il faut marcher ». Donc, la relation du peuple juif avec son Dieu a toujours été des relations d'amour et de haine. Et Dieu aussi toujours est très, très, très emmerdant avec son peuple. Enfin, c'est quand même un Dieu très exigeant, jaloux, acariâtre, une sorte de midinette. Hein. Il faut vraiment être aimé. Il faut qu'on aime que lui, qu'on révère que lui, qu'on obéisse aux doigts. Et à l'œil, à ses préceptes. Non, c'est un emmerdeur, mais enfin, qu'a trouvé un peuple à son image. Donc, les deux se complètent. Les deux sont si chiants l'un que l'autre. Donc, quand on lise la Bible, c'est très rigolo, quoi. Ils n'arrêtent pas de s'invectiver l'un l'autre, quoi. Et au milieu, vous avez Moïse qui essaye de faire un peu le conciliateur. Donc, Simon s'inscrit dans cette tradition. Pas content vis-à-vis de l'Éternel, et puis plus grave évidemment chez Simon, il y a cette incompréhension de se demander pourquoi ce Dieu soi-disant si puissant a quand même réussi l'exploit de faire ouvrir la mer Rouge, enfin bon, on connaît tous les exploits là. Pourquoi s'il s'est tué pendant l'Holocauste? Donc c'est là d'où vient un peu le malentendu de Simon et son désamour, on va dire, son divorce avec son Dieu.
Oui, d'autant plus que Simon est quand même obsédé par cette histoire de la Shoah, à tel point qu'il a décidé que la France était un pays antisémite. Justement parce qu'elle a permis, les rafles, les voilà, les... Et donc, il reste quand même bloqué beaucoup sur cette histoire-là. Et voilà, donc il a décidé que la France était antisémite, et c'est pour cela qu'il la quitte, d'ailleurs.
Oui, enfin, il n'a rien décidé du tout. C'est la France qui s'est déclarée antisémite. Non, antisémite, non, j'exagère. Mais non, il n'a rien décidé. Il a lu l'histoire de France. Donc, et c'est vrai qu'il... Non, disons qu'il a une obsession et il se bloque sur...
Voilà, il bloque.
Mais il a des raisons de le faire. Enfin, je le comprends, je vais le défendre. Parce que, bon, la France, pendant la guerre, avec la rafle du Vel'd'Hiv, a quand même agi d'une manière absolument immonde. Et que ça, c'est quelque chose qui passe pas chez Simon... Et je dois avouer qu'il ne passe pas chez moi non plus. Mais moi, j'ai réalisé ça en écrivant le bouquin, en fait. Et ça m'a vraiment fait froid dans le dos. J'ai réalisé que si j'étais né 30 ans auparavant, donc je suis né en 67, donc ça fait 37, 30 ans, c'est rien, en fait. C'est vraiment une génération et demie. Si j'étais dans la même famille, dans le même endroit, ben oui, il y aurait eu beaucoup de choses. Enfin, un fort taux de... pourcentage très élevé pour que je connaisse le même sort. Mmh. Et tout ça parce que la police française de son propre chef, sous les indications du gouvernement de Vichy, avait demandé que, sans que les Allemands le demandent, c'est quand même un exploit.
Tout à fait, oui.
Donc ça reste, évidemment, ça reste une tâche indélébile, d'autant plus que... Il a quand même fallu attendre 50 ans avant que le président Chirac fasse son discours et reconnaisse la dette imprescriptible de la France vis-à-vis de la communauté juive. Et que jusque là, quand même, on continuait à fleurir la tombe du maréchal. Donc ça fait beaucoup. C'est quand un passé assez lourd. Et c'est quelque chose qui ne passe pas. Enfin, chez Simon, chez moi non plus. Enfin, chez moi non plus.
Donc, en fait, ce livre vous a quand même permis de dire des choses que vous avez sur le cœur, ou vous les aviez déjà, enfin, ou c'est quelque chose que vous avez découvert justement pendant. Oui, c'est ce que vous disiez en fait. Vous avez.
Non, mais j'en avais conscience bien
avant.
Depuis tout petit, enfin tout petit. Enfin, pas depuis le berceau, mais non, mais c'est quelque chose qui m'a toujours un peu effaré. Et, c'est vrai qu'on a toujours un peu de mal en France avec le devoir de mémoire. Avec ce coup de génie qu'a fait De Gaulle, quoi, mm-hmm. de dire qu'en 1945, on avait été vainqueur.
Oui.
C'est génial, quoi, comme coup. Quoi. Et le pire, c'est qu'on y a cru. Enfin, c'est que les Français y ont cru. Et je pense que c'est la source de tous les maux de la société française. C'est que De Gaulle a fait croire, non seulement au monde entier, mais qui plus est à la nation, que la France restait encore le centre du monde. Et le centre de l'univers et une nation, alors qu'elle aurait pu très bien devenir une nation moyenne et être très heureuse et avoir des prétentions modestes. Je pense que c'était, enfin, que tout vient de là, enfin, que tous les problèmes même qu'on a aujourd'hui dans la société viennent de ce décalage entre l'image de ce qu'on pense être et de ce qu'on est vraiment, du poids de la France dans le monde.
Oui. Alors, en attendant, Simon, lui, il est appelé par Dieu quand même, finalement, parce que malgré tout ce qu'il a à lui reprocher, Dieu va l'appeler pour lui demander de voler au secours de ses prochains, de son prochain. Alors... Il avait déjà commencé, puisqu'il rentre en France de manière assez brutale pour secourir et s'occuper de sa sœur, qui en est à son énième tentative de suicide, qui lui ressemble beaucoup d'ailleurs. Hein, elle est peut-être un peu moins, elle est peut-être plus fragile, mais finalement, elle a beaucoup, beaucoup de points communs avec lui, je trouve. Peut-être le versant féminin, je ne sais pas trop, de Simon. Et donc Simon va se retrouver dans la peau du sauveur envoyé par Dieu, et il va partir aux quatre coins de la capitale pour voler au secours de se rescaper de catastrophes diverses. Et ça donne lieu évidemment à des situations hyper cocasses, on peut le dire. Voilà. Donc, est-ce que cette histoire-là de cellules d'aide psychologique.
Oui, non, ça m'a toujours fasciné, cette histoire de cellules d'aide. Moi, j'adore ça. Maintenant, dès qu'il y a quelque chose de travers, là, on met en place immédiatement une cellule psychologique. Là, il y a un malheureux là, qui s'est immolé. Hop, tout de suite, on met. D'autorité. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, on ne sait pas trop qui sont ces gens. Et donc, ça m'a toujours un peu fasciné, un peu fatigué aussi, parce que maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui sort un peu des lieux communs, dès qu'il y a une trajectoire un peu déviante, on instaure ce principe, comme le principe de précaution. Ça, dans une société très, très, très anxieuse, où dès qu'il y a un danger qui apparaît, il faut absolument qu'il y ait une armada de psychologues, de psychiatres, de prêtres. Enfin, on ne sait pas trop très bien qu'est-ce qui a vraiment un rôle et quel rôle il joue. Et donc, oui, ça m'amusait de mettre Simon dans ce jeu-là, dans ce cirque-là, de l'introduire sur le lieu de catastrophe et de voir comment... À sa façon, il pouvait interagir avec les naufragés, avec les rescapés, avec les blessés. Et oui, c'est un concept. Enfin, je voulais écrire autour de ce thème-là. Et puis, comme je n'ai pas une imagination débordante, puis que bon, je suis très lent. Enfin bref, je suis très paresseux. Je me suis dit bon, allez, hop, on va le faire passer. Et bon, c'était un moyen de faire avancer le roman et de lui donner un peu de rythme. Et puis oui, enfin de présenter quelques événements cocasses, puisque bon, il se prend pour un rabbin, alors qu'évidemment, c'est tout juste s'il a lu la Bible. il n'a évidemment aucune compétence pour. Bon, il arrive, il est bourré complètement.
Il fait à chaque fois la preuve de son inutilité, de son incompétence, totalement incompétent.
À côté de la plaque. Enfin, peut-être que les vrais psychologues sont aussi à côté de la plaque, parce que bon, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui vient de perdre un avion vient de s'écraser. Bon. C'est difficile de trouver du réconfort. Et donc oui, ça m'amusait de le mettre dans ce rôle de une sorte d'abbé Pierre pour toutes sortes de naufragés de l'existence. Parce que peut-être que lui, secrètement, aurait espéré que... Enfin, lui, il lui faudrait une clinique psychologique, quoi. C'est pas une cellule psychologique. Il faudrait un asile total, complet. Donc peut-être qu'il se projette, peut-être que c'est par jalousie ou par envie qu'il endosse ce rôle de pinicler.
Alors finalement, on en revient toujours au titre, hein, la métaphysique du hors-jeu. Il est souvent hors-jeu quand même. Sagalovic, hein. Il est quand même... Alors, justement, on peut parler à ce sujet de vos fréquentes références au football. Parce qu'on dans le premier, c'était évident. Dans le second, encore, il est question de grandes défaites, surtout, d'ailleurs. Parce que Laurent Sagalovic est un grand amoureux de l'équipe de Saint-Étienne. Qui, hélas, n'a pas gagné depuis très, très longtemps. Alors, justement, est-ce par fidélité à vos héros d'enfance, ou est-ce que c'est un parti pris qui associe les perdants du foot et puis le perdant qui est Simon ?
Alors,
est-ce que c'est un parti pris ? Ou est-ce que vraiment vous avez vraiment envie de parler de Saint-Étienne ? Est-ce que c'était vraiment important pour vous ?
Ben évidemment. Non, mais c'est capital. Non, mais je crois que... Non, mais pourquoi je parle de football ? Non, parce que c'est la question essentielle quand même. Pourquoi je parle de football dans mes livres ? C'est parce que je suis intimement persuadé que... Le football est une parfaite métaphore de l'existence. Et si le football est universel, et si le football est le sport universel, le sport numéro un, c'est parce qu'il est une métaphore sublime de l'existence. Alors, et ce, pourquoi je dis ça, et on arrive au titre, la métaphysique du hors-jeu, c'est que le football repose quand même sur une règle qui est inapplicable. Donc, qui est la loi 11 du football, qui est la loi du hors-jeu. Bon, c'est un peu technique, mais la loi du hors-jeu demande au juge de touche à la fois de regarder le départ du ballon et la position de l'avant-centre. Et la position du dernier attaquant. Ce qui est physiquement impossible. On ne peut pas à la fois regarder à gauche et voir à droite. Donc la loi fondamentale du football, qui est la loi du hors-jeu, est une loi inapplicable. C'est une loi qui, humainement, ne peut pas s'appliquer. Et c'est comme l'existence, c'est-à-dire c'est quelque chose d'absurde. L'existence, c'est quelque chose d'absurde. On est, on vit, on meurt, on ne sait pas pourquoi. Et le football est exactement dans cette même dimension, complètement irrationnelle, puisqu'elle se base sur une règle. Ou alors, il faut avoir un strabisme complètement divergent. Bon, et c'est pour ça que je suis contre la vidéo, mais vraiment, c'est un autre problème. Ceci dit, pour en revenir à Saint-Étienne, non, je crois que c'est plutôt une sorte de dette qu'on contracte quand on est enfant, voire adolescent, parce que ce sont quand même des gens, mais là, on parle de Saint-Étienne, ça peut être Bordeaux, enfin, quoi que... C'est quand même moins prestigieux. Ce sont des gens qui nous donnent des émotions absolument sublimes. Le sport en général et le football en particulier, parce que précisément il est injuste, parce qu'il est inique et parce qu'il ressemble à la vie. Et donc quand on est enfant, non seulement il nous fait rêver, mais il nous donne des émotions qui vous traversent, qui vont vous traverser durant toute votre existence. Et parler de Saint-Étienne à travers mes romans, par exemple, c'est pour moi, c'est une sorte de dire merci à Rocheteau, à Battenay, à tout, à Piazza, de m'avoir fait vivre peut-être les plus grandes émotions de mon existence. Par conséquent, oui, c'est comme si vous contractez une dette, et moi, je me sens redevable par rapport à Saint-Étienne de m'avoir fait vivre effectivement ces instants de grâce avec toute cette épopée qui a été la leur. Et donc la littérature, oui, était une sorte d'hommage que j'ai voulu faire, bon, pour les Verts et puis pour le sport en général, mais principalement pour le foot, parce qu'il me semble une nouvelle fois être vraiment la métaphore parfaite. Je veux dire, toutes les situations qui peuvent nous arriver ou qui peuvent survenir dans votre existence trouvent un écho sur un terrain de football. Mais absolument toutes. Que ce soit l'arbitre, le public, les relations entraîneurs, joueurs, les relations entre les joueurs. Tout a un écho et trouve un écho dans nos existences quotidiennes.
Alors, j'espère que vous aurez des choses à dire là-dessus, parce que moi, je ne suis pas assez connaisseuse. Mais je suis sûre qu'il y en a. On en parlera tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors, Simon, c'est aussi un enfant du rock. On peut appeler ça comme ça, quand même. La musique est très importante, quand même, loin de quoi aussi, mais surtout dans la métaphysique du hors-jeu, il est souvent question de musique. Alors, je sais que vous avez collaboré aux Un Rock il y a quelques années de ça. Est-ce que quand vous écrivez, vous avez de la musique en tête? Est-ce que l'énergie de la musique du rock, tout ça, vous a servi? Parce que voilà, vous faites souvent référence à, je sais pas, moi, je vois Leonard Cohen, Bob Dylan, Joy Division, Smith, etc. Enfin, on voit que voilà, c'est quelque chose dans lequel vous avez baigné. Et est-ce que ça vous sert dans votre écriture?
Je vais vous dire, c'est la première fois qu'on me fait cette réflexion. Alors, je n'y ai jamais pensé. le rock, c'est quand même moins important que le foot. Beaucoup moins. Ceci dit, je ne sais pas me situer par rapport à la pop ou au rock. Alors, c'est très compliqué. L'énergie du rock, est-ce que j'ai une connexion avec... Non, j'écris avec de la musique, ça tout le temps. Et c'est vrai que elle diffère selon le passage qu'on écrit, selon le style qu'on écrit, selon le ton qu'on va avoir, donc ça peut influencer. Mais non, oui, mais c'est pareil, en fait, c'est pareil que le foot, c'est... Encore que c'est plus compliqué que ça, la musique. On ne sait pas très bien comment ça agit sur nous. Je ne sais pas, c'est comme des repères qui jalonnent nos existences aussi, qui ont été là dans nos moments difficiles ou dans nos moments joyeux. Et c'est compliqué, les relations entre... On dirait que je fais Manu Modiano maintenant.
Il y a une mythologie du rock quand même. Il y a le rock, enfin il y a les rock stars sauvages. Ceux qui sont plus mélancoliques un peu. Smith ou la Joy Division, c'est quand même et ça accompagne quand même des moments.
Oui,
très
c'est pas des gens joyeux. Oui, c'est pas de la pop joyeuse. Oui, c'est de la pop désespérée, suicidaire. L'outil s'est suicidé. Donc, non, évidemment, oui, c'est pas fortuit. Oui, si on y réfléchit, oui, c'est pas fortuit. Il y a Dylan et Cohen, évidemment. Mais alors, Dylan et Cohen, c'est comme des rabbins pour Simon. Il y a ce rôle-là. C'est vrai que Dylan dit toujours, quand il écoute une chanson de Cohen, il dit que c'est une prière. Donc évidemment, il y a ce côté-là. D'ailleurs, il y a toujours une question, pourquoi il y a tant de chanteurs? Je fais un écart, mais pourquoi les Juifs sont nuls en sport? Parce qu'ils sont nuls en sport, c'est quand même une question qui m'a toujours hanté. C'est vraiment une honte pour un peuple élu. Je sais pourquoi, parce que les mères juives n'acceptent jamais, évidemment, que leurs enfants deviennent footballeurs. Donc, tu seras avocat, mon fils, tu ne vas pas être footballeur. Évidemment, on a un déficit chronique sur ce plan-là. Mais par contre, en musique, c'est vrai que quand on réfléchit à la musique moderne, Dylan, Cohen, Iggy Pop, Lou Reed...
C'est du beau monde, quand même.
Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait un peu trop. ça compte sûrement dans la vie de Simon et dans ma vie à moi. La musique, je ne sais pas, je l'écoute tout le temps, mais je ne me pose même pas de questions. C'est naturel et... Je suis assez obtus, donc je suis vraiment un vieux con en musique. Pour moi, ça s'arrête en 86. Enfin, les Smiths, et puis après, ils ont copié, quoi. Donc, non, mais c'est vrai, en plus, je suis persuadé, quoi. Donc, le business, il faut que ça marche. Donc, chaque année, on nous sort un nouveau groupe qu'on prétend être... parce qu'il faut bien que les gens... Il faut bien que les Arocs vivent, et il faut bien que les disquaires vivent aussi, donc... Mais quand on écoute vraiment, c'est vrai que... je lâche mon vieux con. Que depuis les Smiths, il n'y a pas eu grand-chose.
Mais justement, quand on pense à tous ces chanteurs, quand même, il y a quand même aussi une relation... à une certaine littérature. Enfin, c'est vrai que bon, on va parler comme ça, là, vite fait de Lautréamont, parce qu'il est quand même en exergue de votre livre, La métaphysique du hors-jeu, qui est. Alors, je vous donne la phrase, qui est très importante pour le déroulement du livre. J'établirai dans quelques lignes comment Maldoror fut bon pendant ses premières années, où il vécut heureux. C'est fait. Voilà. Donc ça, c'était. C'est une phrase inaugurale qui va rythmer tout le livre, puisque vous allez vous en servir un peu de phrase comme ça qui revient. Et justement, est-ce que c'était un hommage à Lautréamont ou c'était un moyen de donner du rythme à votre récit
Les deux. Les deux. Non, mais c'est parce que je trouve que c'est la phrase la plus géniale de la littérature, la plus insolente, la plus paresseuse, pour moi qui me convenait complètement parce que c'est. Voilà, ça ne m'intéresse pas de raconter des histoires.
Oui, on dirait un coup d'accélérateur.
C'est vraiment tête à claque, quoi. C'est dire, je ne sais pas que ça a foutre de vous raconter comment il fut bon pendant ses premières années. où il veut être heureux, c'est fait, voilà. En le débarrasser en une phrase, à la rigueur, j'aurais pu, voilà, j'aurais pu laisser ça, puis enfin, écrire un roman d'une, enfin, avec cette seule phrase. Donc c'est vraiment une façon de raconter ce qu'aurait pu être le roman si j'avais travaillé, quoi. Si j'avais voulu écrire un vrai roman, enfin, traditionnel, blablabla, blablabla, bla, bla, ou... je sais pas ce que je raconte comme bêtise. Si je raconte, par exemple, il a plus de Temesta, donc il falsifie une ordonnance, bon... Donc j'ai ramassé ça en une seule phrase qui tient sur 15 lignes. Bon, mais évidemment, j'aurais pu faire sur 5 pages, mais... Ouais, le prix du livre aurait augmenté. Bon, je l'aurais vendu à 19 euros au lieu de 17, mais ça m'aurait... enfin, ça m'ennuie, moi, de raconter, de faire du roman traditionnel, comme ça, très normatif, avec une narration traditionnelle bon, qu'on connaît. Bon, je ne voyais pas trop l'intérêt. Donc, c'était, enfin, moi, c'était vraiment le moyen le plus direct pour tracer la route, quoi, pour dire, bon, voilà... ce qu'aurait pu être le roman, maintenant, si vous voulez développer, bon, à la rigueur, faites-le. Envoyez-moi vos copies et dans l'édition de luxe, on fera une version non expurgée. Mais... et puis j'ai écrit ça, alors moi qui suis d'une... mais alors d'une... de, comment dire d'une, laborieux et d'une lenteur, d'une paresse phénoménale. Alors ça m'a pris 2 jours pour écrire ce qui m'était jamais arrivé, quoi. Ça m'a là j'ai vu Dieu, quoi. j'ai été béni des dieux là pendant 2-3 jours. Ça a coulé, quoi. Mais vraiment ça m'est jamais arrivé, ça m'arrivera plus jamais, je pense. Et comme quoi, je pense que j'y pensais depuis très très longtemps, quoi. Mais je pense qu'on pourrait écrire un roman rien que avec cette phrase-là, quoi, en prenant ce gimmick et puis en le répétant à l'infini, quoi. C'est la possibilité d'un roman.
Justement, en parlant de roman et de littérature, vous avez évoqué tout à l'heure le livre que vous aviez écrit sur le suicide de Virginia Woolf, La canne de Virginia, qui est un livre magnifique, extrêmement subtil. Très grave et très mélancolique, qui n'a rien à voir avec la série des Simon. Quoique, moi je trouve que dans ce livre-là, il y a des passages très mélancoliques aussi, surtout quand il est question de sa relation avec sa sœur, justement. C'est une relation qui est extrêmement douce et touchante, et l'évocation de de leur virée au bord de la mer, tout ça, ça m'a rappelé La canne de Virginia. Donc je me demandais si vous aviez envie, quand même, à un moment donné, de revenir à cette littérature-là, un jour, ou si vous avez déjà pensé à une idée de roman.
Oui, enfin, je me suis rendu compte que dans mes 4 romans, il y avait 4 suicides.
Oui, justement.
Ça m'a un peu affolé. Oui, non, mais effectivement, la canne de Virginia, donc, qui raconte le suicide de Virginia Woolf à travers les yeux de son mari. Mais en fait, c'est la même obsession. J'ai toujours... parce que Virginia Woolf se suicide... concrètement, bon, évidemment, elle a des problèmes psychologiques très très aigus, mais dans les faits, d'une manière concrète, elle se suicide parce que son mari étant juif, socialiste, ils savent pertinemment ce qui se passe en Allemagne, et ils se jurent l'un l'autre que si l'Angleterre est envahie par la Luftwaffe, ils savent très bien qu'ils seront déportés, donc c'est un suicide par anticipation. Bon, ça s'est trompé, bon, ça, on ne peut pas savoir. Mais donc, je pense qu'il y a quand même un fil conducteur, même si évidemment le ton adopté dans La canne de Virginia ne se retrouve pas dans Loin de quoi et dans La métaphysique. Même si, effectivement, le personnage de Judith pourrait être la petite sœur de Virginia Woolf, dans sa fragilité, comme ça, dans sa mélancolie assez grave et assez sérieuse. Maintenant, est-ce que je vais arrêter de faire le pitre et faire des choses, revenir à des choses plus sérieuses? Je voulais le faire, mais mon éditeur, qui est aussi mon banquier, m'a dit, mon coco, tu es sur ta lancée, donc là, tu l'as envoyé à Tel Aviv. Donc, si tu veux passer par la case argent, tu vas partir en Israël et tu vas m'écrire le troisième tome et le dernier de Simon. Donc, je crains que ce ne soit pas pour le prochain, mais comme je compte bien assassiner Simon...
Ça, c'est un scoop.
Le crucifier, le déporter s'il le faut. Enfin, je demande pas ça, je demande pas ça aux Allemands. Oui, non, ce sera le dernier où je ferai le pitre. Enfin, on sait jamais. Mais oui, j'ai des sujets un peu plus... Enfin, quoi que, c'est pas drôle non plus. C'est pas drôle non plus ce qui se passe dans la métaphysique du enjeu. Mais oui, je le promets, je vais arrêter de faire le pitre.
Mais nous, on est ravis que vous fassiez le pitre encore et toujours. Ça nous donnera l'occasion de lire à haute voix des passages entiers de votre livre. D'ailleurs, on va s'y mettre à lire des passages de votre livre. Ouais. qu'est-ce qu'on lit ?
Alors, on lit... c'est un passage qui se tient tout seul. C'est Simon... Bon, de toute façon, il ne se passe rien dans l'existence de Simon, donc on n'a rien à savoir. C'est Simon qui se lève un matin et qui décide de se rendre à la mairie pour renouveler son passeport. Comme d'habitude, reclus dans mon existence clairosée et en pleine phase d'anéantissement anarchique, je n'avais rien de bien précis à accomplir. Aucun contrat à honorer, aucune obligation à remplir, aucune mission à servir... Aussi, faisant fi de ma paresse débile et de ma terreur absolue face à l'omniprésence tutélaire de l'administration et de sa toute-puissance étatique, je pris la direction de la mairie d'arrondissement dans le but avoué et assumé de renouveler mon passeport qui, malgré le sursis obtenu par Boitillon, radotait ces dernières heures, juste au cas où on ne savait jamais. Surtout avec la France, fille aînée de l'Église, capable de tacles aussi soudains qu'assassins sur n'importe lequel de ses ressortissants, et ce même s'il s'était débarrassé du ballon depuis belle lurette. Après avoir erré d'étage en étage, du bureau de renouvellement des permis de détruire au service de déportation des étrangers en situation irrégulière, j'avisais tout au long d'un corridor sombre et crasseux le service des passeports. Il n'y avait pas foule, comme si désirer voyager était devenu une préoccupation suspecte. Seule, derrière le comptoir, une dame patronesse, tirée à 12 épingles, chignon et bourriffant relevés sur la nuque, lunettes d'institutrice en aqueduc arc-boutées sur un nez refait, mais toujours aussi peu en harmonie avec le reste de son visage ovale, feuilletait l'air désœuvré une revue pour jeunes célibataires onanistes en manque de gonne-michée. C'est pourquoi... Bon, visiblement, je la dérangeais dans sa lecture attentive et scrupuleuse de son magazine consacré cette semaine aux problèmes hémorroïdaires d'une starlette d'un feuilleton télévisé en vogue et à la nouvelle coiffure révolutionnaire d'un mannequin autrichien fiancé à un chanteur arménien anorexique. Un renouvellement de passeport. Faites voir. Je lui tendis mon précieux sésame avec à l'intérieur une photo de moi prise le jour de mes 18 ans lorsque j'avais perdu mon pucelage avec Anne-Marie dans la cave de Madame Boutboul, mais ceci est une autre histoire. Vous êtes né en France, apparemment, et vos parents, quoi mes parents, ils sont nés aussi en France? Grand Dieu, non. Père est né à Bruxelles, Belgique, Benelux, mère à Sousse, Tunisie, Afrique du Nord, grand-père à Minsk, régime tsariste, Nicolas II, Catherine II, Rasputin, grand-mère à Bucarest ou Budapest, je ne sais plus trop. Bah, dis donc, quel drôle de foutoir, votre arbre généalogique. En tout état de cause, j'imagine que vous avez amené avec vous votre justificatif de nationalité française. De quoi ? Soupir fatigué. Cher monsieur, avec votre pédigré de gitan kazakh, pour qu'on daigne vous délivrer un nouveau passeport et considérant qu'indéniablement l'un de vos deux parents n'est pas né sur le territoire français, et même dans le cas présent, les deux, il va falloir que vous me prouviez que vous êtes français, et pour ce faire, le tribunal vous condamne à me présenter un justificatif de nationalité française attestant d'une manière indubitable votre appartenance à la patrie des droits de l'homme. Mais, madame, mademoiselle, oui, bon, mademoiselle, puisqu'on m'a déjà délivré un passeport français, c'est que je suis français, enfin moldave, ça ne suffit plus. Comment ça ? Pour la deuxième et dernière fois, cher monsieur, je vous répète que c'est à vous et seulement à vous de me prouver que vous êtes français et pas à moi. Mais mon passeport, alors, ça ne prouve rien. Attendez. Si je vous suis bien, vous êtes en train de me demander de vous prouver que je suis français, alors que dans le même temps, vous tenez entre vos mains un document délivré par une administration française démontrant par le simple fait de son existence que français je suis bel et bien, parce que si français je n'étais pas, on ne me l'aurait pas délivré, pas vrai ? Peut-être bien, mais ça ne prouve rien. C'est une blague du tout. Mais comment voulez-vous que je vous prouve que je suis français, que je me mette à danser la carmagnole, que tous les matins, sitôt levé, j'entonne Maréchal, nous voilà, que j'assiste au lever des couleurs en bermuda kaki à l'école militaire, que je m'enfonce une bouteille de Bordeaux dans le cul, que je porterai comme l'étendard sanglant de mon identité française ? Ce n'est pas nécessaire, suffit de m'apporter un justificatif de nationalité française. Et je trouve ça où ? Nulle part. Vous devez juste écrire au service compétent de la préfecture de vos lieux de naissance avec comme pièce jointe soit l'ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration, soit le jugement constatant l'appartenance à la nationalité française, soit le certificat de nationalité française. Mais je n'ai rien de tout ça. Alors je ne peux pas vous délivrer de passeport, c'est la loi, monsieur Sagadovitch, Lovitch, ça ne change rien. Excusez-moi d'insister, mais c'est que voyez-vous, aussi incroyable que cela puisse vous paraître avec ma tête de pâtre grec, j'ai bel et bien vu le jour à Paris, le 23 pluviomètre de l'an 1973, 12 jours après le rabbi Goldman de la congrégation orthodoxe de la synagogue de Chasseloupa, ma circoncis. J'ai suivi mes études au lycée du sieur François Villon, situé avenue Marc-Sandnier, numéro 24, dans le 14e arrondissement de la capitale. Loyal jusqu'au bout vis-à-vis de ma terre de naissance, j'ai même été jusqu'à effectuer mon service militaire en tant que chasseur alpin au 26e bataillon de Vars. Ça ne prouve rien. Ma carte d'électeur prouve rien. Ma carte de donneur de sperme, ça ne prouve rien. Mon permis de conduire, ça ne prouve rien. Mon certificat de bar mitzvah, ça ne prouve rien. Je respirais un grand coup. En fait, je tremblais de tous mes membres. Puis je compris. Durant mon absence en catimini, le petit-fils du maréchal avait fomenté un joli coup d'État et dans les foulées avaient été réinstaurées les lois de purification ethnique visant à se débarrasser une bonne fois pour toutes de toutes ces raclures de youpins, de pédérastes, de communistes qui, par le simple fait de respirer, souillaient la grande nation française. J'avais beau chercher, je ne voyais pas d'autre explication. C'est parce que je suis juif. Je vous demande pardon. Non, voyons, si je m'appelais Martin, vous ne seriez pas là à m'emmerder avec vos formulaires qui n'existent que dans votre imagination perverse. Mais non, vous lisez Sagalovitch et vous vous mettez à penser, oh là là, celui-là avec un nom pareil, ça sent pas bon, ça ne renifle pas le terroir, ça pue le cosmopolitisme à plein nez, pas de ça chez nous, allez, oust, par ici la sortie. Mais pas du tout. La loi est la même pour tous, monsieur Sagadovitch. Sagalovitch. Oui, bon, peu importe. Non, pas peu importe. Vous n'iriez pas appelé Zinedine Zidane, Zilénine Zilan. Je ne vois pas le rapport. Moi non plus. J'ai récupéré mon passeport invalide. J'ai tempêté que ça ne se passerait pas comme ça. Que de ce pas, j'allais saisir le garde des Sceaux et le président de la Fédération française de curling. Puis je suis sorti sous le regard ahuri de la préposée pivoine à la solution finale.
Voilà. voilà un avant-goût de cette jubilation généralisée, parce que ça n'est que ça, tout le long du roman et du précédent. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu et puis à remercier Laurent Sagolovitch de venir nous voir à Bordeaux, même si je sais que Bordeaux n'est pas forcément la ville dont il rêve.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que c'est pas, parce que footballistiquement parlant, c'est pas une équipe terrible.
Il y a pire.
Merci beaucoup.
Merci à vous.